France Musique.
Réveil classique, deuxième heure à 8h50, les enquêtes musicales de Claude Abromont, notre fin limier musicologue. Enquête toute cette semaine sur Roland de la Suce et les prophéties des Sibylles, on dirait un titre de Tintin. Ils voyagent l'été de ville en ville, les musiciens, de village en village, de festival en festival. C'est le cas de notre invité ce matin. Ce soir, je le disais, à Quimper, faut pas rater son train. Lundi à la Roque d'Anthéron, le lendemain au Castellet dans le Var, avant début septembre, son festival à lui, les pages musicales de la Grasse et dans l'Aude. Nous sommes ce matin avec un pianiste, mais aussi un poète. Il fait chanter son piano comme peu le font. Je suis ravi de vous recevoir sur France Musique, Adam Laloum. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a un auditeur qui m'a demandé, demandez-lui, moi je le sais, mais c'est Adam ou Adam?
Adam. Mes parents m'appellent Adam.
Et vous aussi, vous vous appelez Adam?
A priori.
Pas de vacances pour les pianistes. L'été est une saison d'assiettes pour vous. Comment vous préparez tous ces rendez-vous? Pas de vacances?
Pas de vacances et en même temps, c'est quand même pas la même atmosphère que pendant le reste de l'année où évidemment tout le monde travaille. Nous, on travaille souvent plus l'été, mais les gens qui viennent nous voir sont tous en vacances la plupart, donc c'est quand même des choses qu'on peut sentir et dont on peut profiter un petit peu pour que l'été se passe bien.
Plusieurs programmes?
Oh oui, beaucoup. c'est le jeu de l'été. Bon, c'est aussi moi qui ai bien voulu accepter de faire plein de choses différentes, donc oui, on est un petit peu débordé, mais voilà, comme je disais, de sentir les gens qui sont là vraiment pour le plaisir, pour profiter d'un joli village ou d'un bel endroit et de belle musique, ça donne aussi envie de faire les choses sans tous les parasites stressants qu'on peut avoir pendant l'année.
Ouais. C'est des programmes que vous concevez longtemps à l'avance, parce que parfois on vous demande un programme un an à l'avance, et puis là on se retrouve l'été, puis on n'a plus envie de jouer ci, plus envie de jouer ça.
c'est un vrai problème ça. Oui, tout à fait. Comment dire, oui, souvent certains, en tout cas oui, certains festivals ou certains organisateurs prennent très à cœur d'avoir un programme précis assez rapidement, tout simplement dans le but de les faire imprimer suffisamment tôt pour que les potentiels spectateurs puissent déjà se tenir au courant d'une programmation. Et effectivement, du côté musicien, c'est pas toujours évident de donner des programmes aussitôt. Enfin, on le fait parce qu'il faut le faire, mais et ça arrive assez régulièrement qu'on regrette ce qu'on a proposé aussi.
Bon, pas de regret. Moi, j'ai pas de regret dans ma programmation. Beethoven, Schubert, Schumann seront à votre pupitre ces prochains jours, ces prochaines semaines. Schumann, un poète comme vous.
Thank you.
doux et chantant, Zart und Singen, ça sert, hein, 6 ans d'allemand, les Davidsbündler Tänze de Robert Schumann sous vos doigts, Adam Laloum, un disque Mirare, paru il y a quelques années maintenant. Comment il vous est venu le goût de pour Robert Schumann, très jeune?
Oui, oui, vraiment très jeune. Enfin voilà, moi j'ai commencé vers 10 ans le piano et je sais que les premières œuvres de Schumann que j'ai découvert, donc avec les disques qu'il y avait à la maison, bon voilà, il y avait un disque de Moïsevitch avec le Carnaval, il y en avait un autre de Claudio Arrau et puis c'est parti comme ça. Puis après, je me suis complètement laissé. Par cette musique et encore aujourd'hui voilà, donc là je vous parle d'une période qui date d'il y a bientôt plus de 20 ans et puis je suis toujours aussi mordu de cette musique. J'essaie même,
c'est votre pain quotidien, c'est vous la jouez tous les jours ou presque, ou
non parce que c'est comment dire,
c'est trop déprimant.
Ouais, il y a un côté un peu comme ça en fait. Je pense que ça, il y a certains compositeurs avec lesquels ça fait vraiment du bien de les fréquenter tous les jours, Mozart, Bach, et certaines pièces de Beethoven aussi, où voilà, il y a vraiment une énergie très positive, très très forte. Chez Schumann, c'est quand même
ça peut contaminer un peu l'humeur.
Voilà, oui, chez Schumann, on sent quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de voilà, une musique qui n'est pas forcément apaisée tout le temps. Voilà, on va dire comme une drogue, donc par moments à grande dose, et puis par moments on fait des pauses. Et puis
vous faites bien. Schumann, ce soir, vous allez vous droguer avec les amours du poète, les Dichter Liebes, c'est quand même un des plus beaux cahiers de Lieder de Schumann, je trouve. Et puis Beethoven, An die ferne Geliebte, moins connu, ce sera avec le baryton Jean-Jacques Lantoen, c'est dans le cadre des semaines musicales de Quimper, dans cette belle orangerie de l'Aniron. L'accompagnement des chanteurs, c'est un exercice, une forme musicale fréquente pour vous ou plutôt nouvelle? J'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup entendu accompagner des chanteurs ou des chanteuses.
Non, malheureusement, c'est relativement nouveau. C'est quelque chose de formidable, hein, de la même façon que jouer seul ou jouer en musique de chambre.
C'est une forme de musique de chambre, en fait.
Tout à fait, c'est une forme de musique de chambre avec cette notion supplémentaire, voilà, du texte. De la poésie littérale, donc de mettre en musique un poème, et puis de plein de façons différentes. Donc après on peut le voir de plusieurs façons, on peut le voir comme quelque chose qui nous aide à l'interprétation, d'avoir un texte, mais ça peut aussi, par exemple, pour un musicien comme moi, ou comme la plupart de mes collègues qui font essentiellement ce qu'on appelle la musique pure, surtout de la musique sans texte, où on a l'impression que les possibilités d'interprétation sont démultipliées, alors que c'est également le cas dans le lead et la mélodie. Voilà, sauf qu'il y a ce texte que j'essaie de considérer comme un supplément, enfin qui doit être une source d'inspiration supplémentaire et non pas un cadre supplémentaire.
Et dans les Dichter Liebes, Schumann, d'ailleurs, une très belle partie de piano. Ça finit d'ailleurs par une longue partie de piano dans mon souvenir. Vous avez des modèles d'accompagnement, d'ailleurs, des grands chanteurs avec des grands pianistes. Ça s'apprend, l'accompagnement au conservatoire?
Bien sûr, oui, ça s'apprend. Puis ça s'apprend toute la vie, je crois. Hein. Oui, des références. Évidemment, comme beaucoup, j'ai été très, très impressionné par les enregistrements de Fischer Dieskau, avec notamment, surtout, Gerald Moore. D'autres enregistrements aussi sublimes avec Christoph Eschenbach, Alfred Brendel. Disons que oui, pour l'accompagnement... spécifiquement pour l'accompagnement vocal, oui, j'ai une grande sensibilité pour Gerald Moore et dans ceux qu'on entend souvent aujourd'hui, Helmut Deutsch ou Malcolm Martin aussi, qui sont de très grands musiciens.
Adam Laloum avec Jean-Jacques Lantoen ce soir à l'Orangerie de l'Aniron dans le cadre des semaines musicales de Quimper. Beethoven et Schumann. Moi, je vous ai entendu il y a quelques semaines à Paris au festival Jeunes Talents. C'était dans l'église des Arméniens avec des tout jeunes musiciens. Il y avait notamment une chanteuse, Claire Perron, qui sera dans votre festival, les pages musicales de la Grâce, votre festival dans l'Aude, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi tenir comme ça à soutenir des élèves encore du conservatoire, des musiciens qui commencent juste, qui ont leur carrière naissante?
Pourquoi? Parce que ça me paraît tout naturel en fait, comme beaucoup, enfin beaucoup, en tout cas certaines personnes l'ont fait pour moi à une époque et je leur en suis encore aujourd'hui très reconnaissant. Donc déjà c'est avant tout un plaisir. Hein, de découvrir. Voilà, très honnêtement, voilà, moi je suis plus étudiant. J'ai arrêté d'être étudiant depuis 4-5 ans et. Et voilà, je suis plus très souvent au contact avec la génération en dessous de la mienne. Donc, il se trouve que Laurent Bureau, donc qui s'occupe de ce festival, m'a proposé très gentiment d'organiser ce concert avec des jeunes musiciens. Et je trouvais, enfin voilà, je l'ai pris vraiment comme une chance. Voilà, j'ai quelques amis, voilà, dont Claire que je connais déjà, Claire Perron à Mezzo, et je leur ai proposé tout simplement d'élaborer ensemble un programme avec des musiciens avec qui ils prennent beaucoup de plaisir à jouer et puis pour voilà essayer de juste tout simplement de jouer avec eux et puis de faire des rencontres.
Adam Laloum est l'invité de Réveil Classique sur France Musique. Il est 8h18. Il y a un musicien qui est l'un de vos partenaires privilégiés, on pourrait presque dire, parce que c'était lui, parce que c'était vous. C'est Victor Julien Laferrière. Le final de la sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy, animé avec Adam Laloum au piano, Victor Julien Laferrière au violoncelle. Vous jouez pas beaucoup de musique française?
C'est vrai.
Bah, sauf là.
Oui, ah non.
Mais pourquoi? C'est quelque chose qui vous touche moins?
C'est pas... C'est pas une musique avec laquelle j'ai grandi autant que d'autres musiques, on va dire, mais que j'aime. Cette sonate, je l'adore. Franchement, avec Victor, on la joue depuis quasiment depuis qu'on joue, enfin depuis plus de 10 ans. Donc, il y a des œuvres comme ça.
Ça, c'est une des dernières œuvres de Debussy. C'est
tout à fait.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette musique-là? Il y a quelque chose de très, très.
Il y a une énergie déjà incroyable. C'est très moderne, très. Provoquant quand même. Je me souviens la première fois que je l'ai entendu, que j'ai entendu cette sonate en concert, j'étais complètement dérouté. Et puis je sais pas. Non, il y a comme dans la sonate pour violon aussi, qui est aussi très tardive. Il y a un côté très concis, très intense et puis surtout une grande énergie et beaucoup de caractère, disons. Qui est parfois qu'on a du mal à sentir dans certaines œuvres de la musique française, qui peuvent être très parfumées ou comme ci comme ça. Et là, je trouve qu'il y a un caractère, un rythme, et sans renier tout cet héritage harmonique et élégant de la musique française. Ouais.
Alors, il y a des pianistes de votre âge qui font des carrières, qui font des récitals, qui jouent tout seul, avec orchestre parfois, puis c'est tout. Vous, on a parlé de l'accompagnement, on a parlé du temps que vous prenez pour accompagner aussi des tout jeunes musiciens, même si vous n'êtes pas très vieux, vous venez d'avoir 30 ans. Et puis il y a la musique de chambre, il y a toute cette espèce de bande, ces amis avec lesquels vous jouez. On parlait la semaine dernière avec les frères Adrien et Christian-Pierre Lamarca de leur festival. Vous y étiez avec plein de gens le week-end dernier. D'ailleurs, on signale que leur deuxième week-end, voilà. C'est là, vendredi, samedi, dimanche.
On essaye vraiment de... Voilà, si vous avez le temps d'aller à Pommiers, c'est vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose de formidable. Les musiciens sont super, l'atmosphère. Voilà, vous êtes tous les bienvenus à Pommiers.
Pas très loin de Saint-Étienne. Et puis, il y a votre festival dont on va parler également, La Grâce. Ça, c'est dans l'Aude. C'est début septembre, là aussi. C'est pas mal d'amis. Vous êtes rencontrés, en fait, au conservatoire?
Plus ou moins.
On parlait de Victor Julien Laferrière.
Oui, Victor, on s'est même rencontré avant qu'il rentre au conservatoire, parce que moi j'étais au lycée avec sa grande sœur, qui est aujourd'hui une éminente violoniste baroque, qui participe à plein d'ensembles différents. L'ensemble correspondance, les artifices. À l'époque où j'ai rencontré Alice, donc la grande sœur de Victor. Nous étions au lycée à Paris et elle faisait du piano, du violon, elle donnait des cours, enfin elle avait 15 ans, elle faisait déjà plein de choses et donc ça m'arrivait d'aller chez elle et donc chez leur famille c'est comme ça que j'ai rencontré Victor qui devait avoir 11-12 ans à l'époque, mais avec qui était déjà très 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 mûr pour son âge et avec qui on pouvait discuter comme avec n'importe qui, voilà.
Victor Julien Laferrière plus Missa Yango violon, ça donne le trio Les Esprits, votre ensemble. Adam Laloum, on vous écoute dans une page un peu vigorante le matin. Le début du final de ce sixième trio de Beethoven par le trio Les Esprits. C'est pas le trio Les Esprits de Beethoven, hein, c'est celui d'avant en fait.
D'après, juste après.
D'après.
Oui, oui.
Donc votre trio, Adam Laloum, avec Victor Julien Laferrière et Missa Young. Comment ils vont, Les Esprits?
Ah ben bien. j'espère. Après, on sait pas. Nous, on s'est vus au début de l'été et après. Victor, donc le violoncelliste qui est on va dire un petit peu en repos et enfin entre le repos et les festivals, donc voilà. Après
il a remporté la première édition du concours Reine-Elisabeth consacré au violoncelle, c'était il y a quelques mois maintenant. Ça va, il n'a pas pris la grosse tête?
Pas du tout, non, je crois qu'il est... au contraire, ça a l'air de l'angoisser, mais bon, ce qui est, j'espère que c'est juste un sentiment passager.
Vous pouvez partager ensemble, puisque vous avez quand même remporté un certain nombre de concours, le concours Clara Askill notamment. C'est des bons souvenirs, c'est des trucs un peu qui font mal au ventre quand on y repense.
ça va quoi, quand même. C'est quand même une chance, mais c'est vrai que c'est difficile. comme personne se prépare voilà, personne se prépare à aller en finale, déjà encore moins à ce que ça se passe aussi bien. Donc on peut avoir le sentiment juste de pas être préparé à ce qui vient, de se dire bon voilà, moi j'ai préparé ce concours à fond, mais par contre s'il faut faire des concerts après, j'ai qu'une heure de répertoire dans mon programme. Il va falloir que... Enfin, là, je parle un peu de moi. Je pense que Victor, lui, il a la chance de faire des concerts déjà depuis plusieurs années. Donc, il a quand même un bagage et une expérience assez importante, assez impressionnante pour son âge. Donc, j'espère qu'il verra les choses plus sereinement. Mais en ce qui me concerne, quand c'est arrivé, au début, c'était une grosse angoisse. Enfin, bon, beaucoup de bonheur, mais très vite, une grosse angoisse. Et puis finalement une motivation pour voilà, parce que c'est, on peut pas être plus en confiance que après avoir eu un prix à un concours. Donc c'est aussi, je pense, une occasion importante pour essayer de voilà, d'élargir son répertoire et de pas rester sur ses peurs et son petit répertoire.
C'est pas un concours, mais c'était une compétition. Vous avez remporté quelques jours avant vos 30 ans en février les victoires de la musique classique, soliste, instrumentale. Bravo, enfin, je dirais. Merci. Même. Qu'est-ce que ça a changé comment vous avez vécu ce moment? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Vous avez le droit de dire rien.
Hein. On est en direct, hein, en plus, c'est ça. C'était super. Alors encore une fois, comme je disais pour Victor et le concours Elisabeth, j'ai de la chance d'avoir voilà, d'être suffisamment indépendant avant de recevoir cette distinction. Donc c'est juste, c'est très agréable à entendre.
Ça rassure ou pas?
Ah non, pas particulièrement. Mais bon, on se dit. C'est toujours sympa. C'est comme si quelqu'un venait m'offrir un bouquet de fleurs que j'avais rien demandé. J'apprécie beaucoup. D'un point de vue vraiment très pragmatique et personnel, moi, quand est arrivé il y a quelques mois cette chose, je me suis dit bon, mais c'est peut-être l'occasion de plus retourner aux victoires pendant quelques années et de plus passer à la télé en direct et de stresser pour jouer 5 minutes. Donc je le vois plus comme ça, en me disant voilà, comme le passage télé, je trouve que c'est quelque chose de pas du tout évident pour moi. Donc c'était une sorte de libération, même plutôt à ce niveau-là.
Je crois que cette réponse reflète assez bien votre personnalité, Adam. Je vous propose d'aller à l'auditorium de la Maison de la Radio, mais pas pour vous écouter aux victoires de la musique classique. C'était un an auparavant. C'était un concert merveilleux. Le Larghetto du dernier concerto pour piano de Mozart, le 27e, le 595. C'était vous, Adam Laloum, au piano, l'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Sir Roger Norrington. C'était à l'auditorium de la Maison de la Radio, le 6 mai 2016, il y a un peu plus d'un an. Quand on écoute ça, quand on connaît cette musique, il y a quelque chose qui frappe l'oreille tout de suite. C'est le tempo que vous avez choisi. C'est vous, c'est lui, c'est... Et pourquoi ce tempo si allant?
Ça faisait partie notamment de l'email, que, enfin de l'échange en tout cas...
Que vous avez envoyé avec Roger Norrington.
Avec Sir Norrington.
Voilà, donc il vous envoie les tempos par mail en fait.
Qui avait certaines requêtes, je pense, voilà, ça n'a, pour l'avoir vu ensuite en répétition, ça n'a pas l'air d'être un maniaque frustré, bien au contraire. Mais bon, sa philosophie générale, c'était vraiment de retrouver tout ce qu'il peut y avoir de l'enfance chez Mozart, malgré ce 27e concerto, voilà, comme on peut faire avec la dernière sonate de Schubert, en disant bon, c'est la dernière, et mettre tout un poids émotionnel là-dessus qui est évidemment présent, mais qui parfois alourdit le discours et efface même certaines subtilités ou certains éclairages qui sont quand même essentiels à cette musique. Donc j'ai été assez dérouté par voilà, notamment le tempo du...
C'est la première fois que vous le jouiez, j'imagine?
Non, heureusement. Mais comme ça, oui.
C'est très allant et en même temps c'est très chantant.
C'est très allant, c'est très chantant. En même temps, voilà, Larghetto, c'est pas Largo, c'est... Et Mozart, c'est pas Brahms. Et... Voilà, ne serait-ce que cette phrase, voilà, je pense qu'il y a des choses, une simplicité qui peut ressortir, mais qu'on peut aussi, évidemment, je pense, trouver dans l'extrême lenteur. Voilà, nous sommes partis sur, à un moment, il faut se décider, on est parti sur un tempo comme ça pour essayer justement de retrouver cette, voilà, malgré toute la profondeur de la musique, de retrouver cette simplicité mozartienne.
Comme Clara Askill, par exemple. C'est une pianiste que vous écoutez beaucoup, on vous compare beaucoup à elle. Vous avez remporté le concours qui porte son nom, et on dit souvent, enfin moi je le pense, que quand vous jouez, ça chante comme Clara Askill faisait chanter son instrument.
Alors oui, ça, c'est évidemment que j'ai été très influencé.
C'était mon bouquet de fleurs.
J'apprécie, merci beaucoup. Et donc, oui, évidemment que c'est un jeu tellement... particulier, tellement simple et électrique en même temps, oui, qui rend magnifiquement service à la musique de Mozart. Voilà, on est forcément influencé par toutes les versions ou tous les concerts qui nous ont marqués. Après, on essaie aussi de se détacher, juste d'être le plus honnête possible avec la musique, donc de faire les choses, de s'approprier les choses, sans ego, sans surplus d'ego, on va dire, juste un ego au service d'une œuvre.
On écoutait ce concerto de Mozart. Y a un concerto que vous allez jouer bientôt avec des micros partout. C'est le premier de Brahms. C'est votre premier enregistrement Sony. C'est à la fin du mois.
Ouais.
C'est un événement important dans un parcours musical, pour pas dire le mot carrière. Comment vous l'appréhendez?
Justement, c'est très très compliqué. Enfin, c'est oui, c'est peut-être, j'ai peut-être du mal à le réaliser, mais c'est peut-être en tout cas en termes discographiques, le plus gros projet qu'on ne m'ait jamais proposé et que je n'ai jamais proposé par moi-même non plus. C'est une grande inconnue. J'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. C'est aussi un très grand défi. De deux œuvres immenses.
Maintenant, c'est votre rêve. Enfin,
c'est mon rêve et on me l'a proposé. Je me suis dit bon, c'est peut-être, je vais peut-être pas dire non.
Et bon, vous avez eu raison, même si maintenant ça vous fait mal au ventre. Premier concerto pour piano de Brahms que vous enregistrez, puis il y aura le deuxième aussi, ça sortira dans quelques mois chez Sony. Avant, vous étiez dans un autre label, une belle maison de disques qui s'appelle Mirare, dirigée par un monsieur qui s'appelle René Martin, qui dirige aussi le festival de la Roque d'Anthéron. C'est quelqu'un qui a été important, qui est toujours important pour vous. Vous allez jouer à la Roque d'Anthéron lundi, à l'abbaye de Silvaca, dans le programme Les Pathétiques et Waldstein de Beethoven, et puis l'avant-dernière sonate, si je ne m'abuse, non, la 19e de Schubert. La Roque d'Anthéron, c'est un endroit où on parlait de Clara Askill, il y a plein de pianistes, ça se mélange. C'est quoi pour vous cet endroit? C'est un moment incontournable? C'est
Oui, quand même.
Le rendez-vous de l'été?
C'est le rendez-vous de l'été, en tout cas en ce qui me concerne, ouais, depuis 5-6 ans. Oui, puis pour évidemment au moins une vingtaine d'autres pianistes. Oui, c'est un festival qui met vraiment très très en valeur le piano, avec divers
pianos qui se promènent sur les tracteurs.
C'est ça, voilà, il y a un nombre de pianos qui se baladent autour de la Roque d'Anthéron.
Il y a le cérémonial du choix du piano le matin.
Oui, il y a ça aussi qui est une épreuve pas forcément évidente d'ailleurs, parce que c'est à la fois un luxe et à la fois souvent un choix très difficile, parce que il faut ménager entre les sensations du plein air, les sensations avec la mécanique d'un piano. Comment ça sort au niveau du public, ça, on n'en a jamais une idée trop précise vu l'endroit où on est situé. Donc il y a beaucoup de choses, et puis évidemment, voilà, c'est cette grande conque avec cette estrade, enfin avec ce.
Oui, c'est au milieu de
quelques places.
De l'eau.
Voilà, au milieu de l'eau, c'est quand même très
vraiment magique avec ce parc de Florent et ses platanes. Et vous jouerez là lundi à l'abbaye de Silvacane. Dernier festival dont on va parler, c'est le vôtre, le festival de la Grâce dans l'Aude. Vous êtes le directeur artistique. Oui. Comment ça s'est fait?
Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait un petit peu par hasard, et en même temps, c'est né d'une idée. À laquelle je pensais avec mon père depuis au moins 4 ou 5 ans, donc juste l'idée de mettre une pierre à ce grand édifice des festivals d'été en France qui sont une véritable richesse culturelle, et voilà, comme certains ont malheureusement pu voir plusieurs festivals
disparaître,
voilà, pour des raisons économiques ou autres, et donc voilà, c'est évidemment très triste pour ces gens, pour les musiciens, pour le public, et voilà, nous essayons de perdurer, on va dire, cette tradition de festival d'été qui
de festival dans un petit village. C'est un joli petit village médiéval. On est entre Carcassonne, Narbonne, par là.
C'est ça, oui, en plein dans les Corbières. C'est magnifique. Voilà, comme on disait aussi, encore plus proche de l'abbaye de Fontfroide que les mélomanes doivent connaître. Pas mal, voilà.
Vous parliez de question économique autour des festivals, mais vous, c'est aussi votre job d'aller chercher l'argent, par exemple, de regarder les tarifs des billets, des concerts, des choses très pragmatiques comme ça?
Bien sûr. Alors moi, je m'occupe essentiellement de la partie artistique, enfin de ce que je sais, a priori,
donc
je
la programmation,
fais mieux que le reste.
Faire venir,
les musiciens,
des amis, notamment.
Faire les programmes, discuter avec les musiciens des programmes, ensuite, fixer les faire un planning de répétition, enfin des choses très concrètes, mais essentiellement consacrées aux musiciens directement. Et une équipe formidable sur place, par contre, qui se bat vraiment presque tous les jours pour trouver des financements pour que cet événement puisse avoir lieu. Ouais.
Votre choix musical, Adam Laloum, alors c'est peut-être lié parce que c'est de l'orgue, et il y aura de l'orgue aux pages musicales de la Grâce avec un génial très jeune organiste qu'on connaît bien ici à la Maison de la Radio.
Ouais.
Thomas Hospital,
voilà, qui a eu la grande gentillesse d'accepter, depuis le début d'ailleurs, hein, depuis la première édition, de participer à ce festival. Oh, c'est génial cette musique.
que vous jouez jamais?
Ah vous... ben, en tout cas, pas sur orgue, mais bon, ça pourrait...
Ah, pourquoi pas.
Bon.
La vie est longue.
La vie est longue, voilà.
Et
on verra
bien. Piano, moi, je vous ai jamais entendu. Vous le jouez chez vous, dans votre coin, comme tout
très
le monde.
Rarement, très rarement. Non, j'ai l'intention d'en jouer de plus en plus en concert aussi, mais à mon rythme, parce que bon, c'est vrai que surtout avec toutes les avancées ces dernières années, voilà, on a quand même mine de rien une connaissance de plus en plus précise, voilà, de l'interprétation, du style, et puis tout simplement même des sonorités des instruments.
C'était la fin de la fantaisie en sol de Jean-Sébastien Bach, la 572. Vous avez choisi Ton Kopman pour ce choix musical, la Dame Lalome. On vous retrouve donc aux pages musicales de la Grâce dans l'Aude du 1er au 10 septembre. Adam Laloum, le patron du festival et l'organisateur, et qui joue avec, on entendra qui, il y a Jonas Vito notamment, super pianiste.
Alors
aussi,
il y a Jonas Vito, donc excellent pianiste, aussi Guillaume Bellhomme, enfin ils sont tous excellents. Hein,
on peut pas tous les citer.
Voilà, mais bon, il y aura Guillaume Bellhomme, Tristan Raes, Claire Perron dont nous avons parlé, Jean-Jacques Lantoine, Marie-Laure Garnier, les frères Chillem, Victor Gélaferrière, Yann Levieux-Noix, Charlotte Chuillard, Pierre Fauchonneret.
Voilà. Tous leurs noms sur le site internet du festival musical de la Grâce. Et puis concert ce soir à Quimper, faut aller prendre le train maintenant, Adam, au domaine de l'Orangerie de l'Anniron. Festival de la Roque d'Anteron à l'abbaye de Sylvacane le 14. Et puis le lendemain, même programme dans le Var au festival du Castellet. Merci beaucoup, Adam Lalome, d'être venu ce matin dans Réveil Classique. À
merci
très bientôt.
Jean-Baptiste.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.